Radio Grand Ciel.
Continuons donc de nous intéresser au visage de Samuel, juge et prophète en Israël, qui vient de recevoir de Dieu l'ordre de donner maintenant un roi à Israël pour répondre aux exigences du peuple. Son rôle maintenant va donc être de choisir ce roi et de mettre en place la royauté. Le choix se fixa dans la tribu de Benjamin sur un fils de Kish, un vaillant homme dont le fils se nommait Saül. Et nous savons, grâce au chapitre 9, verset 2, que c'était un beau garçon, qu'aucun des fils d'Israël ne le valait. Il dépassait tout le peuple de la tête et des épaules. Donc, beau, grand et fort. C'est Dieu lui-même qui avait orienté le choix de Saül. Nous le lisons au verset 10. Le Seigneur avait averti Samuel, disant « Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras comme chef de mon peuple Israël, et il sauvera mon peuple de la main des Philistins. » Quand Samuel aperçut Saül, aussitôt le Seigneur l'avertit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Alors, situation étrange quand même que ce choix guidé par Dieu, alors qu'en fait la royauté n'est pas voulue par Dieu, mais elle a été accordée avec plutôt amertume au peuple hébreu parce qu'il exigeait. Mais même si Dieu n'est pas satisfait de la situation, il n'abandonne pas son peuple et intervient pour trouver un roi qui convient. Car en principe, c'est Dieu qui doit rester le vrai souverain de son peuple. Lisons ensuite, donc au début du chapitre 10 du premier livre de Samuel. Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» Donc c'est vraiment Dieu à l'œuvre et cette onction va permettre un changement spirituel d'ailleurs en Saül, après quoi Samuel ira le présenter au peuple comme leur roi et il sera bien sûr acclamé. Et nous voyons immédiatement après que sa charge sera surtout en fait de faire la guerre. Contre les ennemis environnants, ça n'arrête pas. Toutes les tribus, toutes les petites nations autour. Et cela nous mène au début du chapitre 12 de ce premier livre de Samuel, chapitre qui est tout entier consacré à un grand discours, cette fois, d'adieu, déjà, de Samuel, qui se sent vieillir et sa mort assez proche. Et il y fait d'abord l'examen de toute sa vie devant le peuple pour leur demander l'approbation de son administration et s'appuyant sur leur reconnaissance, en profite pour rappeler leurs fautes. Donc lisons chapitre 12 à partir du verset 13. « Maintenant donc, voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. » Et voici que le Seigneur vous a donné ce roi. Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, si vous écoutez sa voix sans vous révolter contre les ordres du Seigneur, alors vous-même et votre roi, vous continuerez à suivre le Seigneur votre Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, si vous vous révoltez contre les ordres du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous, comme elle le fut contre vos pères. Comprenez donc et voyez toute la grandeur du mal que vous avez commis en demandant pour vous un roi. » Et enfin, à la fin du discours d'adieu de Samuel, je continue de vous lire. « En ce qui me concerne, il serait abominable de pécher contre le Seigneur en cessant d'intercéder en votre faveur. Je vous enseignerai le chemin du bien et de la droiture. Seulement vous, craignez le Seigneur et servez-le en vérité de tout votre cœur. Voyez en effet comme il s'est montré grand envers vous. Mais si vous faites le mal, vous serez anéantis, vous et votre roi. » Voilà, mais après ce grand discours, Fin du chapitre 12, Samuel n'est pas encore mort du tout. En fait, on aura sa mort qu'au début du chapitre 25, donc il y a encore un bon bout d'histoire. Entre-temps, Saül, à travers toutes les guerres qu'il conduit, va commettre un premier péché qui lui vaudra la colère de Samuel, qui lui dit « Tu as agi comme un fou, tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur ton Dieu. Le Seigneur aurait établi pour toujours ta royauté sur Israël, mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. » Oh, voilà. Ça se passe en pleine guerre contre les Philistins, qui est tout de suite suivi d'une guerre contre des Amalécites, au cours de laquelle Saül va de nouveau désobéir au commandement du Seigneur. C'est pourquoi Dieu, cette fois, vient parler à Samuel. Nous sommes au chapitre 15, à partir du verset 11. « La parole du Seigneur fut adressée à Samuel. Je me repens d'avoir fait de Saül un roi, car il s'est détourné de moi, il n'a pas accompli mes paroles. » Alors Samuel fut bouleversé et cria vers le Seigneur toute la nuit. Voilà, en effet, maintenant Samuel doit aller s'expliquer avec Saül et lui annoncer la décision de Dieu. Je vous cite, « Le Seigneur t'a arraché la royauté d'Israël aujourd'hui et il l'a donnée à un autre. » Et on voit là Samuel se désoler du sort de Saül, plein de compassion. Il pleure et se lamente, au point que nous lisons au début du chapitre 16, « Le Seigneur dit à Samuel, « Vas-tu longtemps encore pleurer Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne sera plus roi sur Israël ?» Donc Samuel doit couper le cordon, se ressaisir et recommencer tout le processus de mise en place d'un nouveau roi. Alors là, c'est bien connu, hein, cette fois il s'agit de David, sur qui Dieu fixera la main. David qui, lui, deviendra le modèle idéal du grand roi. Et pendant 9 chapitres, ensuite, nous pouvons lire l'ascension, l'histoire de l'ascension de David vers le pouvoir royal, qui n'est pas simple, c'est un combat acharné contre Saül, qui, lui, ne veut pas renoncer. Et donc, ainsi, nous arrivons au début du chapitre 25, où nous lisons « Samuel mourut, tout Israël se rassembla chez lui à Rama. » Et puis, c'est tout. On a de nouveau toute une histoire de guerre. Et on pourrait penser que là s'arrête l'histoire de Samuel, mais non. 3 chapitres plus loin, au chapitre 28, verset 3, on lit de nouveau « Samuel était mort ». Tout Israël avait célébré son deuil et l'avait enseveli à Rama, sa ville. Et c'est alors qu'en plein combat contre des Philistins, Saül, toujours en place et qui s'accroche au pouvoir, se trouve submergé par l'angoisse et décide de faire une chose totalement interdite, de faire appel à un intermédiaire, une nécromancienne, une femme qui fait parler les morts, et que va-t-il lui demander ? D'appeler Samuel à la rescousse. Et voilà, par cette nécromancienne, Samuel, de nouveau, parle. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos ? Et pourquoi m'interroges-tu alors que le Seigneur s'est écarté de toi ?» Samuel n'est pas content d'être dérangé. Et c'est ainsi que depuis l'au-delà, Samuel doit encore intervenir pour finalement annoncer à Saül que les Philistins vont le vaincre et que lui et ses fils vont être tués dans ce combat. Et c'est seulement à ce moment-là que Samuel pourra aller reposer en paix, confiant la royauté à David. Et moi aussi, maintenant, je peux vous dire au revoir, chers auditeurs.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin, au service de votre quotidien.
Alors, l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
Cet Internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
la rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui, chaque année, nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième. Ça stresse un peu, car comment notre plus grand va le faire ? Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ses partages.
Je dis souvent que les habitudes nous enquillent, mais elles ont du bon. Je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Présence.
Radio Présence, 18h. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est une nouvelle série que je vous invite à suivre toute la semaine. Vous allez découvrir jour après jour différents intervenants, témoins, des témoins de l'association Les Pèlerins de l'Eau Vive, une mission catholique qui a vu donc et fait ses premiers pas en 1979 et qui se consacre essentiellement au service des malades de l'alcool et de leurs familles. Association fondée à Lourdes par un médecin qui donc propose un accompagnement bien spécifique pour toutes les personnes touchées par l'alcoolisme. La mission consiste à écouter, accueillir, partager et prier avec tous ceux qui souffrent de cette dépendance. Aujourd'hui au micro, aujourd'hui et demain, vous allez pouvoir donc entendre dans Des clés pour vivre le témoignage de Bernard et de son épouse Lucie, 44 ans de mariage, 4 enfants, 6 enfants et puis depuis 20 ans, pèlerin avec l'association des pèlerins de l'Eau Vive. Ici à Lourdes, je me tourne tout de suite vers Madame. Bonjour Lucie.
Bonjour Nathalie.
À vos côtés, votre époux qui ne vous quitte pas, qui ne vous quitte plus depuis les débuts, 44 ans. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors merci à tous les deux. C'est un témoignage percutant, fort. On n'a pas de temps à perdre, quelques minutes, mais je rappelle qu'on on vous suit également demain. Quel est un peu donc ce témoignage que j'ai pu aussi entendre hors antenne pour préparer cette émission? Qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans, Lucie, vous êtes au fond engagée dans ces pèlerins de l'Eau Vive?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai commencé à boire parce que je suis malade de l'alcool. Au cours de soirées qu'on disait boum à l'époque, où on faisait la fête dans des maisons louées, des chalets, dans des soirées. Et puis ça a pris beaucoup d'ampleur au cours du temps parce que j'ai subi plusieurs abandons dans ma vie. Et je dis toujours qu'on ne boit jamais pour rien et qu'on a toujours des bonnes raisons. Enfin, raison entre guillemets. Moi, pour ma part, j'ai enfoui en moi-même un viol que j'ai subi à l'âge de 11 ans et demi, donc auquel ma grande sœur, ma sœur aînée, était témoin et elle est toujours dans le déni. Elle n'a jamais voulu reconnaître que j'avais subi ce viol par un de ses amis qui était médecin et qui avait 30 ans. À l'époque. Et du coup, j'ai pas pu me retourner vers ma mère qui ne pouvait pas l'entendre, donc ni vers ma sœur. J'en avais parlé à Bernard après plusieurs années, mais j'avais enfoui ça en moi. Et je pense que aussi par l'éducation de mes parents qui étaient un peu autoritaires, où j'avais pas tellement de relations verbales avec eux, parce que maman était d'origine indochinoise, elle ne montrait jamais ses sentiments. Il fallait pas parler de l'amour, il fallait pas parler de lui dire qu'on l'aimait. On lui avait demandé avec mon frère à genoux quand on était petit si elle nous aimait. Elle nous avait tourné la tête, ne répondant pas. Donc je pense que aussi le fait de boire, ça a été vraiment un manque, un vide d'amour. Pour moi, ça a été une révélation au cours de thérapie que j'ai entrepris. Et j'ai découvert que ce manque d'amour résultait de plein de choses que j'en avais autour de moi. Mais je ne le voyais pas. Et j'ai rencontré Bernard qui m'a appris vraiment des tas de choses sur l'amour, sur la vie, sur le fait d'exister. Voilà. Et je suis abstinente maintenant depuis 22 ans et heureuse d'être toujours avec Bernard, et ça n'a pas été facile qu'on reste ensemble, mais enfin, on tient bien la route. avec nos enfants qui ont subi beaucoup de choses aussi.
Qui ont subi, donc, tout comme votre époux, hein, puisque je rappelle que vous avez plus de 40 ans de vie commune, de mariage. Alors vous, Bernard, vous avez été témoin, est-ce qu'on peut parler d'une descente, finalement, une descente en enfer ?
Tout à fait.
Quand une épouse et qu'un époux est témoin de cette chute considérable ?
Bah, c'est-à-dire qu'au début, on ne s'aperçoit pas de tout. On aimait bien festoyer, boire, et puis finalement on se rend compte que petit à petit, bah, Lucie buvait de plus en plus, une dégradation constante. Enfin voilà, moi je connaissais rien au problème de l'alcool, je pensais pas qu'elle était malade, mais, sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, ça devenait de plus en plus dur, de plus en plus violent pour les enfants et pour moi.
C'est-à-dire dans le quotidien, bah dans le, de dans plus le quotidien, en plus violent, changement violent, de personnalité.
C'est-à-dire que Lucie est une... Lucie, je dis toujours Lucie 1, Lucie 2. Donc Lucie 2, c'est verbalement très dur. Même, on dit que les hommes ne sont pas des hommes battus, mais moi j'ai dit que j'ai reçu des coups. Parce que quand elle était dans l'alcool, elle perdait tous ses moyens, quoi. C'était plus elle. Donc ça, c'était une galère pendant des années.
Alors, mais comment vous l'avez, vous, époux, vécu, traversé? Quels étaient un peu vos outils pour survivre au sein du couple?
J'ai vécu... Ça a été très dur, c'était très compliqué.
Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Qu'est-ce qui vous a fait rester avec Lucie?
Ce qui m'a fait tenir, c'est qu'à un moment donné, je voulais tout lâcher. Et j'ai rencontré, c'est pas une publicité que je veux faire, mais c'est les pèlerins de l'eau vive. J'ai rencontré, grâce à d'autres personnes, j'ai rencontré les pèlerins de l'eau vive. J'avais un papier dans ma voiture. Si un jour tu veux essayer de comprendre, appelle telle ou telle personne. Et quand à un moment donné, je n'en pouvais plus, parce que j'avais un boulot qui me prenait énormément de temps. Et quand j'ai téléphoné, je suis allé aux pèlerins de l'eau vive. Et en fait, on y allait le mardi soir. J'y suis allé tout seul, parce que Lucie venait pas au début. Et là, enfin, je me suis trouvé plus tout seul. C'est-à-dire, puis j'ai arrivé à comprendre ce qui se passait. Enfin, le fait d'entendre les autres, on se dit, voilà, tout ce qui arrive, c'est logique, c'est dans la maladie alcoolique. Et là, ça donne des forces, quoi. Ça donne énormément de forces. Et c'est là où le cheminement a attaqué, quoi.
Lucie.
Oui, c'est vrai que j'avais un dédoublement de personnalité quand je buvais excessivement. Donc, comme disait Bernard tout à l'heure, Lucie 1 et Lucie 2. Bernard avait l'appréhension de rentrer tous les soirs et de me trouver dans un état pas possible, second. Et j'étais très, très méchante, une méchanceté verbale à son égard, peut-être physique, je me souviens plus trop maintenant, mais il appréhendait de rentrer à la maison après son boulot, de savoir comment il allait me trouver. Et puis, à un moment donné, je me rappelle, je pense que s'il est resté aussi, parce qu'il a voulu me foutre dehors, hein, quand même, hein, une fois avec mes valises, mais il a eu une voix en lui qui lui a dit, si tu la mets dehors, elle mourra. Elle va mourir.
Je crois que la voix, en fait, c'était à un moment donné, c'est un ami, Luigi, le mari de Lucienne, qui m'a dit, mais tu sais, une femme, ça se détruit beaucoup plus vite qu'un homme. Il m'a dit, ta femme, elle peut se retrouver à la rue, si tu l'abandonnes, si tu la quittes, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment voulu, je savais plus quoi faire, quoi. Et il m'a dit, si tu la quittes, elle peut se détruire très vite. Et depuis ce jour-là, je me battrai tout le temps pour que ça n'arrive jamais, je la quitterai jamais, quoi, voilà. Et puis en fait, ça fonctionnait, quoi, en gros, quoi.
Lucie.
Oui, moi j'interviens pour dire que Bernard m'aime vraiment, quoi. Je pense que ça, c'est une preuve d'amour, mais incommensurable. Et une fois, le moment déclencheur où je suis allée au pèlerin, j'étais complètement bourrée un soir. Il rentre avec cette appréhension et il me dit... j'avais passé une journée infernale, hein, à me tailler les veines avec un rasoir, à pleurer dans un coin de la chambre en disant « Mais qu'est-ce que tu veux là-haut? Est-ce que tu veux que je crève ou que je vive? Donne-moi un signe. » Il rentre et il me dit « Tu me dégoûtes là, va te coucher, je veux plus te voir. » Et c'était le soir où on avait notre prière avec les pèlerins, un mardi soir. Et là, je lui dis, on se dispute et excédé, il me donne un coup de boule. Alors qu'il n'est pas violent, Bernard.
Ça se voit.
Je sais pas, c'est à coup.
Il me pète, me fèle le nez. Alors, une grosse patate comme ça, je saigne. Et je dis, je viens quand même avec toi ce soir à la prière. Je ne sais pas pourquoi. Dans mon état, le nez fracassé, Bernard aussi tout tremblant, on part au pèlerin. Et là, Luigi nous voit arriver dans cet état. Luigi, c'était celui qui était à la tête avec Lucienne des pèlerins de Loviv à Lyon. Il nous dit montez dans une pièce. Bernard avait pris tous mes médocs aussi. Il les jette par terre en disant bah, vous qui sauvez des gens, prenez-la, j'en veux plus. Et sauvez-la, mais je ne peux plus continuer. Et Luigi m'a dit demain matin, à 8 h, tu viens voir le médecin. Et j'ai dit, mais. Et Bernard aussi. Et Bernard avait une entreprise à l'époque. Il dit jamais il sera là à 8 h. Il viendra jamais avec moi. Et bien Bernard était là, à 8 h, avec moi.
Alors, moi, je vais vous proposer Bernard. Et Lucie, dans cette série Des clés pour vivre qui débute avec vous aujourd'hui, de vous retrouver. Donc on laisse un peu les auditeurs découvrir aussi peut-être sur internet. Jetez un coup d'œil sur cette association qui existe et qui est née d'ailleurs ici à Lourdes, les Pèlerins de l'Eau Vive. Il y a un site internet www.pèlerinsdelleauvive.com. Org. Chers auditeurs, allez consulter le site internet pour découvrir un peu plus, et dès aujourd'hui, cette association. Jésus Sauveur, guéris-nous de l'alcool, merci, c'est la devise hein, voilà, de cette association. Quant à moi, je vous propose de vous retrouver pour la suite de votre expérience de vie et en couple, et merci à tous les deux. À demain Bernard, et à demain Lucie.
À demain.
À demain.
Présence. De la musique, de l'opéra et des experts tous mélomaniaques. Voici Mélomanie. Amoureux ou amateurs de musique classique, venez partager l'analyse et le coup de cœur de nos chroniqueurs. Mélomanie, une émission animée par Éric Dupri.
Cet été, le samedi, à 19h.
Présence avance. Une meilleure antenne, une meilleure écoute. Un meilleur programme. Pour répondre toujours plus à sa mission, Présence vous invite à la solidarité. Nombreux sont ceux qui, en zone rurale isolée, souhaitent entendre Présence. Ce service nécessite un coût important en investissement et en entretien de matériel. Présence ne peut le financer sans vous. Nous avons besoin de vos dons. Votre soutien à Radio Présence est un don libre. Il finance la radio que vous avez choisie. Pensez-y.
Des clés pour vivre, l'intégrale.
C'est un deuxième épisode des Clés pour vivre avec, pour témoin, toujours au micro, et je vous remercie à tous les deux. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Toujours fidèle à votre épouse. Hein,
oui, toujours.
Depuis 44 ans, hein, vous souriez, mais quand je parle de fidélité, vous comprenez, Lucie. Oui. C'est un miracle cette fidélité.
Bonjour Nathalie.
Hein, bonjour.
Oui, un miracle.
Alors, pour ceux qui prendraient cette série des clés pour vivre et cette émission juste aujourd'hui, je fais court. Vous êtes ici en tant que témoin aussi de l'association des pèlerins de l'Eau Vive, mais en remission, puisque vous avez été malade pendant plus de 20 ans de l'alcool.
Oui, à peu près, oui.
À peu près. Vous êtes parent de 4 enfants. Vous êtes très fière aussi, parce que vous êtes aussi grand-mère de 6 petits-enfants. Il vous a fallu, j'essaie d'avoir un peu d'humour sur un sujet douloureux et léger, mais il vous a fallu beaucoup de courage. C'est un miracle que vous soyez resté avec votre épouse ici présente, avec vos côtés. C'est quoi votre secret, Bernard ?
Bah, moi, le secret, c'est d'avoir eu. C'est de l'aimer, c'est tout simplement. C'est de l'aimer, de ne pas l'abandonner, et je pense que c'est ça le secret.
C'est ce que vous avez fait ?
Oui, tout à fait.
Vous ne l'avez pas abandonné parce
non,
que vous l'aimez ?
Non, je n'abandonnerai jamais.
C'est ça, au fond, le miracle et le secret de votre couple. Hein. Je vois ces beaux regards-là qui se rencontrent. Alors, on va enchaîner avec ce rendez-vous. Vous partez à ce rendez-vous tous les deux en couple auprès de ce médecin. Le rendez-vous est fixé à 8h du matin. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se vit ?
Alors c'est un médecin donc recommandé par Luigi, donc le berger un peu de l'association sur Lyon, qui traitait des cas similaires, hein, c'est-à-dire qu'il voyait beaucoup de malades et il prescrivait de l'espéral. C'est-à-dire, moi, pour moi, il m'a prescrit de l'espéral. Et c'est un médicament que l'on prend. Et si l'on consomme, on peut avoir des rougeurs, des maux d'estomac, un dysfonctionnement des intestins. Et comme j'étais à l'époque coquette, il me sort... Alors, je pense qu'il avait le profil type du psycho qui a vu un peu ma personnalité, qui dit, si vous en prenez... Madame Courcial, vous allez avoir des pustules plein la figure. Alors moi, ça m'a un peu terrorisée, ça, évidemment. Et je voulais surtout pas avoir des jetards sur la figure, des pustules et tout ça. Donc, je dis OK. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé la boîte pendant 3 jours. J'ai retardé l'échéance et je consommais encore. Et Bernard rentrait en disant, tu les as pris ? T'as pris l'espéral ? Et moi, je disais, bah oui, au début, je mentais, parce qu'on gruge un peu. Puis après, je lui ai dit, non, je ne les ai pas pris. Et il a fallu passer à l'acte. Et là, quand j'ai commencé à prendre l'espéral, j'ai arrêté de boire, du coup. Ça a été un sevrage un peu difficile, mais volontaire de ma part. Et j'ai entrepris, après, de m'inscrire à une cure. Il fallait que je le fasse de moi-même. Personne ne pouvait le faire à ma place. J'ai fait les démarches, téléphoniques, papier, tout ça. Et je me sentais capable de le faire parce que je n'avais plus de consommation d'alcool. Et on est plus lucide, on a plus de volonté, on est moins dans les nuages, on est moins dans le coltard. Et surtout, avant cette visite chez le médecin, bah, je commençais un peu à en avoir marre aussi de consommer. J'étais fatiguée, j'avais problème de foie sûrement. Et mes enfants retrouvaient toujours les cachettes dans lesquelles je planquais mes bouteilles, quoi. Et ils me les mettaient devant le pif en disant « T'as vu ta bêtise ? T'as vu ? Tu mens, t'es une menteuse avec des encarts écrits sur la bouteille. » Et ce qui m'a fait aussi avoir la volonté d'arrêter, c'est que ma fille de 9 ans, la dernière, Rachel, à 9 ans, elle va frapper chez l'infirmière de son école en disant « Maman, bois, aidez-moi, toute seule. » Et là, ça m'a fait vraiment mal, quoi. Je lui ai dit « Je les abandonne. J'abandonne mon mari, j'abandonne mes enfants. C'est plus possible, quoi. » Et là, je me suis inscrite en cure. Et ça a été le début de la rémission et d'une progression vers la vie. Et franchement, je ne regrette pas parce que qu'est-ce qu'on rigole de ça.
Alors avec vous, on descend aussi dans les enfers, mais aussi on sort de ces enfers pour ressusciter. Ouais, parce que vous êtes aujourd'hui une femme que je rencontre ressuscitée.
Ouais. Et puis d'ailleurs, on prend des photos hein, quand on est en cure, on arrive. Ah, oui. Avant, après. C'est une transfiguration. Ce n'est pas un autre mot, quoi.
Et votre mari, ici présent, qui vous a jamais lâché, toujours à vos côtés, qui a pu aussi douter, hein, avoir ses propres combats, ses propres luttes, hein, je ne vais pas parler à votre place, vous avez été témoin de cette changement de vie, hein, voilà, de ce retour à la vie.
Cette cure, ensuite cette post-cure de 5 mois, 5 mois c'est long, mais on était vraiment très heureux qu'elle soit plus à la maison.
Vous m'avez parlé aussi, oui, de libération.
Ouais, les enfants...
C'était l'enfer à la maison, au quotidien.
C'était fatigant, elle est partie 5 mois... On était tristes de l'emmener à cette cure là parce qu'on n'avait pas le droit d'aller la voir. Mais c'était 5 mois, elle a approfondi plein de choses en elle. Et nous, on s'est reposés.
Reposés.
Voilà, pour l'accueillir après.
Donc le papa, le père avec ses enfants, c'était un temps de reconstruction pour vous en tant que père.
Il y a eu beaucoup de destruction pour les enfants quand même. Hein. Sarah, ouais. Notre fille aînée, qui a pris le rôle de sa mère pour s'occuper de Rachel, qui était la plus petite. Il y a eu quand même, ça a fait quand même beaucoup de souffrance et beaucoup de dégâts, quoi. Mais je veux dire, on s'est retrouvés ensemble et puis voilà. Puis maintenant, c'est vrai qu'ils connaissent tous nos enfants connaissent tous les pèlerins de Lviv. Enfin voilà, c'est une. Maintenant, on en rigole.
Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de la dimension? On imagine bien entre vous en famille, vous époux, vos enfants, vous Lucie, dimension aussi de se pardonner, donc de se laisser pardonner. Cette question du pardon.
Alors, c'est pas facile au début, parce qu'il y a une question de confiance. Quand je suis revenue de cure, c'est vrai que Sarah, comme a dit Bernard, avait pris ma place un peu parce qu'il fallait gérer les choses, mais elle était encore jeune, très jeune, elle était encore en scolarité. Mais quand je suis rentrée, elle m'a dit cette phrase magnifique: maman, t'es là, t'es de retour, reprends ta place. Déjà, elle me faisait confiance de mon rôle de maman. Et les enfants étaient un peu sur le qui-vive, et Bernard aussi, parce que je vous disais précédemment que on ment quand on est dans l'alcool, on joue la comédie, on sait très bien faire, on gruge tout le monde. Mais s'il n'y a pas cette dimension de confiance qui donne une porte ouverte sur l'espoir de l'avenir, rien ne peut se faire. Et petit à petit, ils ont lâché prise, et j'ai retrouvé ma place, et j'ai retrouvé mes enfants, et Bernard.